les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Au début de l'année 2009, dans Du jour au lendemain, Alain Weinstein recevait Jean-Luc Nancy, peu après sa dernière parution, Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Un livre tiré d'une petite conférence, dont l'amour était le sujet, donné par le philosophe devant le jeune public du théâtre de Montreuil. Un jeune public auquel il s'adressait ainsi. L'amour ouvre à un très grand risque, mais ce risque est à la mesure du prix incroyable que nous donnons à quelqu'un d'autre. Nous donnons ce prix incroyable parce que nous en avons besoin, parce que nous recevons quelque chose. L'amour nous dit que nous ne sommes jamais vraiment bien quand nous sommes seuls, nous ne sommes pas faits pour être seuls, comme nous ne sommes pas faits pour être en grand groupe. Février 2009, Jean-Luc Nancy, au micro d'Alain Weinstein, parlant de l'amour, du christianisme, de la démocratie et d'un humanisme qui, selon lui, nous laisse à sec.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Luc Nancy, qui publie « Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément ». Petite conférence sur l'amour, aux éditions Bayard. Quand je dis « je t'aime », je dis ce qui est le plus intime pour moi et pour l'autre, car je le touche dans son intimité. Pour cette raison, ce sujet est très gênant, difficile à traiter. Est-ce même un sujet que l'on peut traiter ? Plus d'une trentaine de livres, Jean-Luc Nancy, depuis 1973. Imaginez que nous soyons dans des dizaines et des dizaines d'années et qu'un homme, sur une île déserte, trouve au fond d'une malle quelques livres de vous. Vous aimeriez que ce soit lesquels ?
Mon Dieu, c'est trop difficile. Non, c'est trop difficile.
On peut pas choisir.
Je pourrais dire quand même si, je pourrais dire L'Intrus, qui est le livre dans lequel j'ai pu réfléchir sur mon histoire de greffe du cœur. Bon, c'est aussi peut-être parce que c'est le livre dont j'ai eu le plus de retour. Un autre livre, c'est Corpus, Au fond, je vous dis, me viennent les titres dont je sais le plus, le mieux qu'ils ont été lus. Mais c'est tellement difficile en même temps de s'arrêter. Si je vous dis ces deux titres, mais je pourrais dire aussi Être singulier pluriel, qui est un livre beaucoup plus philosophique, plus serré, plus technique, mais qui me tient beaucoup à cœur.
Le sens du monde, peut-être, non?
Oui, le sens du monde aussi, oui.
Voilà quelque chose qui nous manque.
Ah, c'est pour ça que je l'ai écrit. non pas pour fournir le sens du monde, mais pour exhiber le manque, si vous voulez, ou la question, oui. Ça, je pourrais dire que le sens du monde, au fond, je suis toujours en train de le réécrire, de le prolonger. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que, justement, en me posant cette question, m'embarrasser par un autre aspect, parce que il y a des livres qui échappent plus au temps, je pense, justement, l'intrus, corpus, l'être singulier, pluriel, le sens du monde aussi, mais je le vois déjà plus daté. Je pense que c'est un livre de, je ne sais pas, d'environ années 90. Mmh. Et je sais bien qu'il y a des choses qui se sont beaucoup déplacées, en particulier par rapport à la politique, à l'idée de politique. Le dernier livre que j'ai publié dans cette direction-là, Vérité de la démocratie, là, chez Galilée, c'est un livre dans lequel vraiment je tente de faire un écart par rapport à ce à quoi je m'étais toujours, je pourrais presque dire, conformé quant à l'idée de politique. Alors, il y a, même dans un même livre, il y a des choses qui sont datées et des choses qui ne le sont pas. Donc, comme moi, j'ai toujours l'impression qu'au fond, à la fois, j'ai l'impression que j'écris trop, mais que, voilà, c'est incontrôlable, et qu'en même temps, je dois toujours réécrire parce que quelque chose est resté en plan. À la fois, je sais qu'on écrit toujours la même chose, même de façon quelquefois prodigieusement déconcertante, quand on voit que dans un livre ancien, on avait déjà écrit telle ou telle formule, quelquefois. Mais d'autre part, on ne l'écrit jamais de la même manière. Cette même chose, elle se déplace, elle bouge. Et c'est ça, au fond, qui est passionnant.
L'une des grandes tâches, est-ce que ce n'est pas, pour vous en tout cas, j'en parle aujourd'hui puisqu'on va parler d'amour, est-ce que ce n'est pas la déconstruction du christianisme?
Oui, ben, vous savez, j'ai publié un volume un peu épais là-dessus, sous le titre « La déclosion », le sous-titre, c'est « Déconstruction du christianisme 1 ». Et donc, selon la promesse que contient ce numéro 1, je compte bien faire un deuxième livre, tout à fait différent d'ailleurs de conception, qui ne réunira pas des textes comme le premier, qui sera un seul texte, et dans lequel je veux essayer de creuser cette affaire dans laquelle, en effet, il y a l'amour, c'est-à-dire la troisième des vertus théologales, avec la foi et l'espérance. Mais d'une certaine façon, si vous voulez, maintenant, j'en suis à penser que ce qu'il y a au fond du christianisme, derrière le christianisme, en quelque sorte malgré le christianisme, disons le christianisme des dogmes, des églises, etc., ce qu'il y a, c'est uniquement ce qui est recélé dans ces trois vertus théologales qui ont pour nous, de façon absolument laïque, en fait un sens plein et très fort, la foi, l'espérance et ce qu'on appelait la charité, qui est en fait l'amour. Je crois que c'est pas par hasard que c'est avec cette espèce de triple levier qui, d'une certaine façon, n'en est qu'un, c'est-à-dire qu'il y a un certain rapport à l'infini, à l'absolu, à l'impossible aussi, que le christianisme a été le levier de notre culture et de notre histoire. Alors, d'une certaine façon, quelque chose de ça est fini, épuisé, et d'une autre façon, c'est vrai que je persiste fût-ce à tort, hein, je n'en sais rien, je persiste à penser que c'est en creusant encore là-dedans, je veux dire, au moins dans ces trois vertus théologales, à la limite, c'est tout, rien d'autre. Encore que je puisse y adjoindre des choses sur l'idée de Dieu-homme, mais même simplement cette triple forme du rapport à, comment le dire, du rapport, je dis volontiers, à l'incommensurable, à ce que nous ne pouvons pas maîtriser, mais qui est le seul rapport, au fond, qui donne du sens. Hein, je parlais du sens du monde, le sens, c'est pas quelque chose qui se conclut, qui s'arrête au bout d'un discours par une signification acquise. Le sens, c'est toujours dans la tension d'un renvoi à plus loin et à de l'inaccessible. Donc, je crois, oui, toujours que, en quelque sorte, presque malgré le christianisme, si on veut, il y a... Et aussi, d'ailleurs, à travers le triple monothéisme. Là, c'est quelque chose de très compliqué, parce que c'est vrai que je pense que ça prend sa forme la plus explicite, en tout cas, dans le christianisme. Mais il y a là-dedans quelque chose qui a déterminé le rapport de l'homme, disons, d'abord européen, au monde, à la vie, à la pensée, qui a ensuite s'est mis peut-être à ne plus le déterminer à travers l'humanisme, les Lumières et certains, disons, un renfermement de l'humanité européenne toujours sur elle-même, et qui maintenant demande à se refaire surface, si je puis dire.
Vous parliez de l'épuisement du christianisme, Jean-Luc Nancy. Est-ce que le philosophe, aujourd'hui, n'est pas confronté de tous côtés à bien des formes d'épuisement?
Ah oui, mais vous savez, la philosophie elle-même, à travers, je dirais d'abord Heidegger, celui qui a parlé de fin de la philosophie, expression que aujourd'hui la plupart des philosophes mes contemporains ne veulent pas ou ne veulent plus entendre. Mais c'est pas seulement Heidegger, mais en même temps à peu près que lui, disons Wittgenstein d'un côté, d'une certaine façon Freud de l'autre, avec sa métapsychologie, ont prononcé ensemble quelque chose comme en effet une fin de la philosophie, au sens exactement où Heidegger voulait l'entendre, c'est-à-dire la fin des visions du monde. La fin, justement, des sens comme grande signification construite qu'on peut proposer. On peut dire le monde, c'est ça. Bah, le rapport de la nature, par exemple, et de la culture, c'est ça. Le rapport de l'homme et de l'histoire, c'est ça. Le rapport de l'homme à Dieu, c'est ça. C'est ça, je crois, qui est en effet fini, épuisé. Et peut-être on peut dire que l'épuisement pratique, concret, matériel de l'Occident, cet épuisement qui est en même temps un épuisement terrible à travers tout ce qui est arrivé dans le XXe siècle, les guerres dans lesquelles l'Europe s'est en quelque sorte auto-détruite, puis à travers lesquelles elle a aussi entrepris de détruire le reste du monde, de faire lever la possibilité de détruire le monde entier. C'est quand même ça que veut dire Hiroshima. Toute cette espèce d'énorme chantier de démolition qui nous laisse pantois, je crois qu'il est dû à l'épuisement des grandes significations dans lesquelles nous pensions avoir trouvé nos appuis fermes, qui étaient les significations de la raison, de l'homme, de l'histoire, de la science, du progrès, etc. Et ce qui nous fait nous sentir épuisés, c'est que nous ne sommes toujours pas sortis de cette au moins mise en suspens, mise en question, ou même simplement mise en perte de vitesse de tous ces grands comment dire, modèles signifiants. Alors nous sommes devant une tâche qui est très, très particulière et très, très difficile. il faut en quelque sorte inventer, bon, pour le dire comme ça très bêtement, on va dire, il faut inventer un nouveau système de sens, si on veut, de signification. Mais nous savons en même temps qu'il ne faut pas que ce soit un système, et nous savons en même temps que la signification ne peut plus, si je puis dire, avoir le même sens que ce qu'elle a eu. Bon. Et c'est là-dedans, si vous voulez, que pour ma part, et encore une fois, avec, je veux dire, sans assurance, je me dis que les trois mots de foi, d'espérance et d'amour désignent quelque chose qui se passe, qui peut se passer justement dans l'au-delà de la signification, dans l'au-delà du système. Bon. Enfin, même, laissons ça de côté. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est quelque chose comme trouver, ouvrir un nouvel espace pour du sens. Vous savez, il y a une formule posthume de Nietzsche que j'ai déjà citée, mais que je peux toujours réciter, qui est « Introduire un nouveau sens, voilà la tâche, à condition de bien comprendre que cette tâche elle-même n'a pas de sens. » Quand même une formule, vous voyez, il écrit ça vers 1880, c'est quand même assez spectaculaire, et je veux dire, c'est pas Nietzsche comme ça qui est spectaculaire. Ce qui est spectaculaire, c'est de se rendre compte que beaucoup de choses ont été senties, pressenties par des gens comme Nietzsche, comme Rimbaud. Quand même, ces gens-là, ils ont su quelque chose, de ce dans quoi l'Europe, comme on dit l'Occident, était en train d'entrer, ils l'ont su longtemps, longtemps avant que nous le sachions, pas seulement nous d'aujourd'hui, mais je veux dire avant que les hommes l'ordinaire le sachent. Et ça, je trouve, c'est très impressionnant. Il y a des... Et là, on peut aussi se demander, maintenant, où y a-t-il des voix, ça, qui feraient entendre quelque chose? Où est Rimbaud aujourd'hui?
Vous citiez cet autre livre, Jean-Luc Nancy, que vous avez publié en 2008, « Vérité de la démocratie » chez Galilée. La démocratie aussi touche à sa fin?
Ah non. Je n'ai pas du tout voulu dire qu'elle touchait à sa fin. Non, simplement, il me semble m'être rendu compte que si nous étions dans une telle quantité de débats énormes au sujet de la démocratie. Puisque une fois, j'ai rencontré en Russie une jeune femme qui a dit qu'elle avait quitté la France parce qu'elle ne pouvait plus entendre à tout bout de champ du mal de la démocratie. Bon, alors qu'elle trouvait qu'en Russie, c'était une idée, une valeur qui
pouvait avoir un avenir.
Oui, qui avait de l'avenir. Et bien sûr, elle avait bien raison. Non, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être prendre les choses de la manière suivante, c'est-à-dire penser que dans le mot de démocratie, il y a deux sens simultanés et que nous devrions les départager, les débrouiller mieux. Il y a un sens qui est politique. Si on demande à n'importe qui si c'est démocratie, c'est un type de régime politique. Mmh. Bien. Mais d'autre part, démocratie porte autre chose. Démocratie, chez Rousseau, c'est aussi le nom de ce qui représente une nouvelle naissance de l'homme. Donc dans la démocratie, il y a un projet politique et un projet, disons tranquillement, métaphysique. Et si on distingue bien ces deux choses... Qu'est-ce que ça fait alors en retour à la politique? Est-ce que ça ne demande pas justement qu'on la sépare plus nettement, qu'on arrête d'attendre de la politique ce qu'il faut attendre d'autre chose, d'un régime de sens que la politique ne peut pas satisfaire, c'est-à-dire à quoi elle ne peut pas répondre, mais dont elle doit en effet... rendre toujours l'accès possible, ouvert. Bon, ça ne dit pas grand-chose, ce que je dis là, sur les problèmes internes, à la fois techniques, socio-idéologiques de la démocratie. Mais peut-être qu'en fait, c'est par là qu'il faudrait, au lieu de chercher toujours une sorte de meilleure et définitive réponse politique qui serait la réponse à tous les problèmes, au contraire, dire la politique doit seulement rendre possible que les problèmes puissent être posés et que on puisse, qu'on puisse faire de la littérature, faire de la philosophie, de l'art, et qu'on soit bien conscient que ces actes, ces activités, si on veut, ces postures, ne sont pas quelque chose qui finit par revenir à la politique, laquelle serait en dernière instance ce qui prend tout en charge. Peut-être que justement, il y a eu une illusion de cela, depuis Rousseau jusqu'à une certaine, je ne veux pas dire idéologie là, parce que c'est un mot qui a l'air tout de suite péjoratif, mais une certaine grande représentation comme ça, socialiste, même un peu, osons le dire, communiste. Bon, là où le mot de communisme était encore, c'était encore sauvé du pire, il y a une grande représentation qui disait au fond que c'était politiquement que l'humanité allait trouver au fond le nouveau souffle qu'elle devait trouver après la mort de Dieu. Voilà, on peut dire la chose peut-être de manière aussi lourde si on veut que ça. Or, je crois que maintenant, il faut nous dire que ce n'est pas vrai, que la politique n'est pas le lieu de la réponse. Sinon, d'ailleurs, on se met à se faire une espèce de religion de la politique. Et puis après, alors, on est tout étonné quand la politique marche mal, quand elle est en déshérence, quand elle est déconsidérée, tout comme c'est le cas aujourd'hui. Alors voilà, bon, c'est tout. C'est juste ce constat que je demande. Je n'affirme même pas qu'il est juste, mais je demande qu'on me dise si c'est pas par là qu'il faut passer. Mmh. Et jusqu'à présent, vu que les réactions à ce petit livre, bon, sont plutôt intéressantes de ce point de vue-là. Mais au fond, ça veut dire que derrière démocratie se cache la question, qu'est-ce que c'est que l'humanité, désormais, cette humanité qui n'a plus de Dieu, qui n'a plus même d'avenir humain, qui ne sait plus ce que humanisme veut dire, à part, bon, respect de la vie humaine, mais c'est un peu court, c'est beaucoup, bien sûr, hein. C'est beaucoup dans certaines circonstances. Je regrette d'avoir cette phrase comme ça, surtout dans les circonstances où nous sommes avec la guerre là au Proche-Orient. Non, bien sûr que le respect de la vie humaine, c'est beaucoup. Mais d'une certaine façon, c'est rien si on ne fait que respecter la vie pour qu'elle vive, mais pour qu'elle vive quoi, d'une vie souffreteuse, misérable ou privée des possibilités de la culture, de l'épanouissement. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est que l'humanité? Vous savez bien que Foucault a dit, c'était quand, dans les années 60, l'homme n'est peut-être plus qu'une figure qui s'efface comme un visage sur le sable. Et oui, monsieur. Et au lieu d'avoir pu faire rendre à cette formule tout ce que nous aurions pu, peut-être, ou dû lui faire rendre, nous avons continué de façon boiteuse à dire à la fois, oui, c'est vrai que oui, l'homme s'efface. Mais en même temps, c'est toujours l'homme. Nous n'avons pas d'autres repères, pas d'autres valeurs. En disant l'homme, les droits de l'homme. Et en même temps, nous voyons, par exemple, à travers les droits de l'homme et leur utilisation ou leur contestation à travers le monde, que les droits de l'homme sont les droits de quel homme? D'un homme qui a été défini par une certaine culture, une certaine histoire, et qu'il faut peut-être que nous remettions en chantier. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut se débarrasser des droits de l'homme. mais qu'il faut prendre conscience de ce que derrière les droits de l'homme, il n'y a sans doute pas cet homme bien consistant, bien défini, que nous connaissons bien et qui est en fait, pour l'essentiel, pour nous, résumé dans l'image de l'individu d'une société développée et justement démocratique. Mmh. Démocratique au sens voilà, de nos démocraties représentatives. Bon. Ça veut dire aussi qu'il faut tout simplement revenir à Kant qui disait que à la question « qu'est-ce que l'homme ?», il n'y a pas de réponse. Mmh. Alors dire qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'on baisse les bras, mais ça veut dire que homme, est, homme c'est un problème, c'est une énigme. Peut-être il faut oser dire même c'est un mystère. Homme, c'est le lieu d'une ouverture de sens. Je ne veux même pas dire de question. C'est le lieu d'une ouverture de sens qu'on ne peut pas refermer, saturer, en disant, oui, voilà, on sait ce que c'est. L'homme, par exemple, ça n'est plus, c'est ni le fils de Dieu, ni le maître et possesseur de la nature, ni quoi. Au fond, il a été surtout ces deux choses, hein, fils de Dieu ou maître et possesseur de la nature. Bon, maintenant, alors sujet de l'histoire, ce qui était une manière aussi d'être maître et possesseur de la nature. Et d'ailleurs, si je pense au passage, parce que quand on dit « homme », aujourd'hui, on entend très vite ceux qui disent « attention, vous êtes, vous voyez, pour le droit de l'homme et droit humain, attention, vous êtes en train d'employer un signifiant masculin ». Oui, eh bien, la question la femme, des femmes, et puis les questions connexes qui sont celles aussi des enfants, et puis des animaux, aussi bien que les questions du partage des sexes, de la détermination de ce que veut dire là ou les différences sexuelles, etc. Tout ça, c'est un grand ensemble de questions qui revient à dire que homme, au sens générique du terme, justement, nous ne savons plus du tout ce que c'est. C'est pour ça qu'il est si facile de venir dire, ah oui, quand vous dites homme, vous dites, en français du moins, la même chose que ce que l'anglais dira en disant man. Qui est un autre mot, donc human. Beaucoup de langues font cette différence que la nôtre ne fait pas. Donc, voilà, vous savez bien que depuis, je sais pas moi, depuis 30 ans, 40 ans, on a beaucoup vilipendé les philosophes. Au fond de la génération d'avant la mienne et de la mienne, pour avoir été, on a dit, des contempteurs, des destructeurs, des déconstructeurs, mot compris de travers, de l'humanisme. Et oui, mais c'est justement l'humanisme qui nous laisse à sec maintenant. Mmh. Donc, quand Heidegger dit « l'humanisme ne pense pas assez haut l'humanitas de l'homme », là aussi, il disait quelque chose qui, il le dit dans la lettre sur l'humanisme qui date des années d'après la guerre, eh bien, même s'il le dit pour des raisons que certains peuvent juger tendancieuses ou d'opportunité, parce qu'il veut prendre ses distances avec ce qu'on assène, évidemment contre le nazisme, au nom de l'humanisme. Non pas qu'il veuille à ce moment-là défendre le nazisme. J'entends tout ce qu'on veut. Bon. Mais quand il dit ça, il a conscience de quelque chose qui est vraiment notre question.
Mmh. Ou est-ce qu'elle n'était pas formulée différemment par Rimbaud, que vous citiez tout à l'heure, lorsqu'il disait « l'amour est à réinventer » ?
Ah ben oui, ben voilà. Oui, oui. L'amour est du même mouvement, c'est la beauté aussi, comme que Rimbaud dit, non pas réinventer, mais enfin, vous savez, entre « j'ai assis la beauté sur mes genoux et les lingeries », et puis à la fin, « cela est fini, je sais aujourd'hui saluer la beauté ». Et toute la saison en enfer. Toute la saison en enfer. Et pour ça, de relève de cette sorte de prophétie dont je parlais tout à l'heure, toute la saison en enfer, c'est le passage à travers un monde infernal, parce qu'un monde lourd, des églises, des humanismes. Oui. Et réinventer l'amour. Réinventer l'amour, qui n'est peut-être pas perdu du tout, d'ailleurs. Mais, parce que ça, je crois qu'il est en fait toujours là. Mais réinventer l'amour, ça veut dire peut-être réinventer la possibilité de penser que dans le rapport humain, il doit y avoir quelque chose qui va infiniment loin au-delà de, justement, de la personne humaine. Et dans la conférence aux enfants, je ne pouvais pas dire une chose pareille, mais je ne pouvais pas la dire dans ces termes-là, mais dans l'amour, ce n'est pas la personne humaine que j'aime. C'est quelque chose qui, dans la personne, dépasse infiniment la personne.
Alors justement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que « Vérité de la démocratie », pour reprendre le titre de ce livre que vous avez publié l'an dernier, Jean-Luc Nancy, ça serait la réinvention du partage?
Oui. Mais la réinvention du partage voudrait dire comprendre pourquoi il faut partager. Si c'est il faut.
Et comprendre que le partage n'est pas le donnant-donnant.
Ce qui demanderait de remettre en jeu aussi justement ce qui est, non pas le donnant-donnant, mais le don. Le don. Le don comme de mots sans bataille en Derrida. Il a pas par hasard posé question à la pensée contemporaine. C'est-à-dire le don qui justement ne exclut qu'il puisse y avoir un contre-don et suppose de la part de celui qui donne comme de la part de celui qui reçoit, qui suppose abandon. Abandon à l'autre. Et je crois qu'il est certain que au moins dans ce qui dans les discours qui sont tenus, dans les images qui circulent autour de nous de l'amour, autant je crois toujours que très intimement chez les gens, mais même chez les jeunes que quelquefois on accuse beaucoup d'être, on va dire, d'être dans une sorte d'utilitarisme et tout, je crois que c'est plus compliqué, plus subtil, enfin je veux le croire peut-être, mais en tout cas, dans les images, dans les représentations, dans beaucoup de choses qui sont dites, bon, en effet, l'amour rentre plutôt dans une sorte de catégorie de l'échange et du confort. On se plaît d'ailleurs aussi longtemps qu'on se plaît, mais quand ça ne va plus, on se sépare. Il semble ne plus y avoir rien de l'ordre de ce qui est au-delà du plaisir, non pas pour le déplaisir, mais je dirais dans le sens où le désir est toujours au-delà du plaisir, ni du désir, ni de ce que je disais, de ce rapport à l'infini, à l'impossible, à l'inconnu et à l'inconnaissable que sera toujours l'autre, comme tel.
L'amour, sujet extrêmement difficile, et pourtant c'est celui que vous avez choisi pour une petite conférence au Théâtre de Montreuil. Gilbert Saille invite des conférenciers à parler devant un public qui est en majorité composé d'enfants. Et pour les enfants, vous choisissez toujours, Jean-Luc Nancy, les sujets les plus ardus, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez faire une petite conférence. Il y en a eu une sur Dieu, et il y en a une sur
sur la justice.
Sur la justice.
Et la troisième sur l'amour, oui. Et je viens de faire, il y a quelques... deux semaines, je crois, trois, je viens de faire la quatrième sur la beauté, qui a été de loin la plus difficile, de très loin. C'est important pour des... plus difficile que celle sur l'amour. Oui, moi, j'ai pensé qu'il fallait parler aux enfants de ça parce que, et je crois là j'ai eu raison, parce que autant peut-être il n'était pas si juste de vouloir leur parler de la beauté, parce que c'est au fond quelque chose dont il n'y a pas pour eux d'expérience au même sens que l'amour. Mais autant il était juste de vouloir leur parler de l'amour parce que, ouais, parce qu'au fond, ils savent très bien ce que c'est. Et évidemment, on est très limité dans un certain sens quand on parle aux enfants, mais aussi cette limite vous sert et vous oblige à trouver, je dirais pas l'essentiel, non, c'est pas vrai, on peut dire bien d'autres choses, sûrement, plus élaborées, plus profondes, si on veut, sur l'amour. N'empêche que, pour en parler à des enfants, on trouve, j'espère avoir trouvé par moment, et les questions des enfants m'ont montré que ce n'était pas faux, le moyen de dire quelque chose de simple et d'essentiel, parce qu'enfin quand même les choses essentielles sont toujours simples, comme tout simplement les enfants comprennent très bien que quand on dit « je t'aime », on ne sait pas ce qu'on dit. C'est justement quelque chose dont la signification ne peut pas être comme ça maîtrisée. On ne peut pas dire, voilà, je t'aime, ça veut dire... Alors, et ils le comprennent très bien, comme si on leur montre la différence toute simple qu'il y a entre j'aime le chocolat et puis j'aime Isabelle.
Bon. Là, pour préparer cette petite conférence, vous avez dû délaisser Hegel, Nietzsche... Maurice Blanchot, Jacques Derrida et quelques autres pour lire Harry Potter et Astérix.
Non, j'ai jamais lu Harry Potter, mais j'en ai vu deux films avec des petits-enfants. Et Astérix, non, mais dans Astérix, il n'y a pas d'amour, il y a une caricature d'amour. Non, il ne faut pas croire, je n'ai pas abandonné les philosophes. Vous savez, une phrase comme celle de Hegel, « L'amour, c'est avoir dans un autre le moment de sa propre subsistance », évidemment, je ne vais pas la citer à des enfants, mais par moments, j'ai parlé de ça. Et je ne sais pas, je pourrais penser à d'autres phrases. Non, parler à des enfants, ça, c'est faire une sorte d'exercice d'aller-retour. C'est vrai qu'on va, comme on dit, vers eux. Et donc, on est obligé de trouver un discours qui puisse résonner pour eux. Mais de cette expérience-là, on revient chargé de questions, de suggestions, d'idées qui font qu'ensuite on travaillera autrement.
De Jean-Luc Nancy, Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, petite conférence sur l'amour, aux éditions Bayard. Vérité de la démocratie, chez Galilée, et un livre dont nous n'avons pas eu le temps de parler, qui est en fait une réédition, mais pas tout à fait une réédition, une nouvelle version, on va dire, de Le poids d'une pensée, l'approche aux éditions de la Faucide. Et puis je voudrais signaler le premier numéro d'une nouvelle revue, Contre-attaque, qui a pour sous-titre « Penser, écrire contre tout intégrisme », aux éditions Golias, qui propose pour son premier sommaire un dossier autour de Jean-Luc Nancy, le premier venu. Du jour au lendemain, Alain Joubert, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.
Cette émission a été diffusée la première fois le 4 février 2009 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje
y el eco de la pena de estar sin ti.